En Dieu, nous recevons la vie, le mouvement et l'être, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est une joie d'être ainsi assemblés pour s'ouvrir à cette grâce, à cette miséricorde et à cette paix qu'il nous donne en abondance et que nul autre ne peut nous donner. Alors nous nous mettons à l'écoute de sa parole et nous le célébrons, notre Dieu. Pour cela, je vous propose de prendre dans le début du psautier français le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, nous te rendons hommage car tu es notre Dieu de génération en génération. Tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. Alors c'est toi que depuis toujours nous remercions pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis sans condition. Pour nos âmes que tu gardes, pour nos pas que tu éclaires et pour tes miracles de tous les jours envers nous. À toute heure, le soir, le matin, à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas. Père éternel, tes grâces ne tarissent jamais. Depuis toujours, tu es notre joie profonde. Alors, je vous propose de poursuivre dans la louange ensemble avec le psaume 25 dans le psautier français. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Les strophes 1, 2 et 4 du psaume 25. Bienvenue dans cette maison, frères et sœurs. Merci à chacune et à chacun d'être ici. Bienvenue à François Claveroli, le président donc de la Fédération protestante, Alors que tu as dû sans doute donner un mal de chien, j'allais dire, à organiser ce colloque formidable que la Fédération protestante a organisé donc la semaine dernière. Merci d'avoir consacré donc ce temps, cette prière aussi, à nous préparer une prédication pour ce matin. Bienvenue à Geoffrey, qui a demandé à faire une profession de foi parmi nous, dans notre Église. Bienvenue à celles et ceux qui vous accompagnent, Geoffrey. Alors il y a là aussi une représentation peut-être de la Fédération protestante, puisqu'il y a une pasteur adventiste, un aumônier, et puis il y a Major de l'Armée du Salut, Denise Brigou, que nous connaissons bien, et ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Et puis merci au chœur d'accompagner ce culte, donc avec Fabien Aubé et puis avec David Cassan à l'orgue. Alors le chœur a été un peu amplifié par quelques personnes qui viennent avant le culte. Donc quand le chœur chante, vous êtes invités à venir apprendre les chants du culte, et c'est une bonne façon de mieux soutenir encore notre assemblée. Donc merci à vous tous. Alors, tant qu'à faire de remercier quelques personnes, je peux remercier aussi la brigade qui est en face et qui est en train de préparer le repas. Donc, c'est sympa d'avoir sacrifié leur culte pour se mettre au service, d'être faire aujourd'hui les martes. Maintenant, nous écoutons ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt donc jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Suivez donc l'amour. Face à cet idéal infini de l'amour, car dans ce texte de Paul, nous avons une théologie, une image de Dieu comme amour, et puis un chemin qui nous est proposé. Alors bien sûr, nous ne sommes pas à la hauteur de cet amour infini qu'est celui de Dieu. Et donc nous pouvons, comme nous y invite saint Augustin avec ses paroles, nous tourner vers Dieu avec confiance. Seigneur, donne-moi de m'accueillir moi-même comme tu m'accueilles, de m'aimer un peu comme toi, tu m'aimes infiniment. Délivre-moi de la perfection que je veux me donner. Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. Épargne-moi les remords de Judas rentrant en lui-même pour ne plus en sortir, épouvanté, désespéré devant sa faute. Accorde-moi le repentir de Pierre, rencontrant le silence de ton regard plein de tendresse et de pitié. Et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton amour attristé. Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon cœur, peut-être le dégoût de moi-même. Je le projette sans cesse sur l'autre, à mes côtés, alors que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je serre moi-même précieusement la clé. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore guérir. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et à chacun, directement au plus profond de notre être. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et en Christ, l'Éternel, notre Dieu, effectivement, se penche vers nous et nous dit « Mon enfant bien-aimé, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
Vous pouvez prendre place et j'accueille donc avec grande joie Geoffrey. Donc c'est une confirmation de l'alliance de votre baptême que vous avez reçu petit, à 6 mois je crois. Et donc c'est une grande joie pour nous tous que vous soyez là et que vous avez eu le courage de vous lever et puis de vous présenter au milieu de nous. Alors votre baptême passé, c'est le signe de l'amour de Dieu pour vous, en particulier Geoffrey. Alors même qu'à 6 mois, vous n'étiez pas encore un grand, grand théologien, ni un grand priant, bien sûr, cela manifeste bien, ce baptême d'enfant, et bien que l'amour de Dieu pour chacun est donné sans condition. Et cet amour, vous y êtes sensible depuis longtemps, il vous a manifesté sa présence pour vous accompagner dans les bons comme dans les mauvais jours. Il a aussi pris le visage d'hommes et de femmes qui vous ont accompagnés, qui ont été présents à vos côtés, dont certains sont là aujourd'hui. Votre recherche de Dieu, vous l'avez menée dans la prière, dans la réflexion, dans la lecture de la Bible, et puis aussi dans des études, sociologie des religions, et puis maintenant à la faculté de théologie protestante, et puis on vous voit très régulièrement au culte parmi nous, et ça nous réjouit bien sûr, et ça nous soutient aussi, ça nous porte. Alors bravo Geoffrey pour ce chemin parcouru jusqu'à présent. Ce chemin est ouvert devant vous et bien sûr, il mène à l'infini. Dieu vous y accompagne sur ce chemin. Alors à l'amour de Dieu qui vous a dit un grand oui alors que vous étiez au début de votre existence, maintenant vous voulez dire au milieu de... Alors d'abord dans votre cœur, dans votre tête, mais maintenant publiquement dans son Église... Église dont nous sommes un visage, un oui à ce Dieu qui est votre Père. Alors votre baptême, donné une fois pour toutes, c'est le signe que Dieu vous bénit et vous accompagne. Ce Dieu qui est l'Éternel, le Dieu de la genèse du monde, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la promesse qui met en route, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui ouvre des sources nouvelles et anciennes dans notre existence. Le Dieu de Jacob, le Dieu du combat avec la parole. Dieu de Moïse, Dieu des prodiges pour nous libérer, nous mettre en route. Dieu de David, Dieu des louanges à Dieu. Le Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour inconditionnel. Alors oui, Geoffrey, l'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière et vous donne sa paix. En réponse à cet amour de Dieu, vous avez souhaité pleinement, librement, puisque cet amour est donné sans condition, eh bien, répondre par la foi. Alors c'est une possibilité, c'est de le faire effectivement en faisant une confession de foi. Et c'est ce qui, effectivement, vous avez fait, vous avez préparé un texte de confession de foi qui sera la confession de foi de notre Église ce matin. Donc je vous propose de vous lever pour vous associer par la foi à ce que Geoffrey a préparé pour nous.
Je crois en Dieu qui vous guide sur les droits chemins et vous aide quand vous en traversez d'autres plus tortueux et qui est présent dans les bons moments comme dans les mauvais, qui est là dans la souffrance comme dans la joie. Je crois en Dieu, en sa grâce infinie et gratuite qu'il nous donne, la manifestant par les paroles, la vie et par le sacrifice de son Fils unique Jésus-Christ. Par cette grâce, nous accepte tels que nous sommes, bons et mauvais, nous sauve et nous aime infiniment. Né de parents très croyants.
On aura quelques mots après sur votre parcours, mais en écho à cette confession de foi, merci beaucoup Geoffrey, eh bien, nous pouvons chanter le grand Dieu, nous te bénissons, qui vient nous unir effectivement à la foi que vous venez de confesser. Effectivement, gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors Geoffrey, nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne universelle. Donc l'Église chrétienne, c'est, j'allais dire, ce club de gens qui cherchent Dieu en Jésus-Christ, qui dépasse largement les institutions humaines et qui nous accompagne jour après jour. Donc que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Alors vous avez accepté de dire quelques mots sur votre parcours pour nous, peut-être nous inspirer aussi à nous-mêmes de nouveaux pas sur le chemin de la foi.
Né de parents très croyants, d'un père protestant réformé né sur le plateau Cévenol du Chambon-sur-Lignon et d'une mère catholique née à Marseille, convertie à la foi protestante réformée lors d'un séjour aux États-Unis il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai toujours été baigné par le protestantisme réformé et n'a jamais perdu la foi, même au pire moment de ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, ma foi n'a jamais flanché et m'a tellement porté et soutenu qu'avec le temps, j'ai entrepris des études de théologie à l'Institut protestant de théologie de Paris, qui, j'espère, m'emmèneront à partager cette foi et cet amour de Dieu avec les autres, au service des autres. Dans le crépuscule des idoles, Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ma mère, partie trop tôt cette année à l'âge de 66 ans, disait « Il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y en a que des bonnes, avec le temps ». Tous les souvenirs, même ceux qu'on pense mauvais, sont toujours bons. Aujourd'hui, je voudrais vous remercier les gens de ma vie ici présents à l'oratoire qui m'ont toujours soutenu, souvent dans les mauvais moments. C'est à cela que l'on voit qui sont vos vrais amis. Madame Eliane Girard, Marie-Pierre Péchou, la major Denise Brigaud et François Durbin, et mes amis, Monsieur Yves Hamon et Monsieur Jacques Dohan, qui me soutiennent quotidiennement, et le personnel de l'armée du salut. Les amis de l'oratoire, j'espère qu'ils se reconnaîtront. ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui sont présents dans la prière, en particulier mon père Jean-Noël, mon frère Stéphane et sa femme Jacqueline, mon ami Thierry Scholler, Pierre-Jean Solaire, le major Jean-Claude Nguimbi, et enfin ceux de ma famille que Dieu a rappelés au cours de ces 5 dernières années. Car comme le dit le théologien dans l'amitié consolée Alexandre Vinet, ils ne sont pas perdus, mais ils nous ont devancés. Ainsi, ne crains pas, crois seulement. En effet, lors des événements, les personnes, les amis qui sont toujours répondus présents, c'est Dieu, car Dieu c'est moi, Dieu c'est vous, Dieu c'est les autres. Amen.
Un grand merci Geoffrey, je suis persuadé que vous rayonnerez de plein de bonnes choses autour de vous. Merci. Maintenant, c'est la major Brigou qui a accepté de prier pour vous. Et c'est une force d'avoir ainsi cette prière les uns pour les autres.
Nous sommes devant toi, Seigneur notre Dieu, témoins de l'engagement de Geoffrey, te suivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Que ces paroles, Seigneur, ce commandement soient gravés dans le cœur, non pas seulement lus, non pas seulement écoutés dans un message, mais gravés dans le cœur de chacun et dans celui de Geoffrey. Parce que c'est le précepte de l'amour. Aimer notre prochain, aimer notre Dieu. Conduis Geoffrey sur ce chemin, Seigneur, qu'il a décidé. Un chemin merveilleux, un chemin étroit. Souvent, nous le disons impossible, mais c'est l'impossible qui est le chemin. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui nous demande toujours d'avancer, de regarder plus haut, même dans les moments de tempête et de difficulté. Et pour Geoffrey, tu le feras comme tu le fais pour chacun d'entre nous, pour nous conduire, pour nous faire grandir et pour trouver ces richesses que nul autre ne peut nous donner à part toi. Bénis cette assemblée qui reçoit Geoffrey et qu'il puisse s'aimer les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen.
Grand, grand merci.
Au moment où nous ouvrons la Bible, je vous invite à un moment de prière. Nous prions. Ô Dieu notre Père, tu viens vers nous avec des mots et des phrases vieux de plusieurs siècles. Nous voulons ce matin nous mettre à leur écoute et nous t'en prions, ouvre nos esprits et nos intelligences afin que nous les recevions comme paroles vivante. Par ton Saint-Esprit, ouvre nos esprits. Amen. Et je vous propose d'écouter une fable et puis un texte de l'épître de Paul aux Romains. La fable est tirée du livre des Juges. C'est une fable vraie. Elle vient de la Bible. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 9. Les arbres s'étaient mis en route pour aller choisir celui qui serait leur roi. Ils dirent à l'olivier, « Règne donc sur nous. » L'olivier leur dit, « Vais-je renoncer à mon huile que les dieux et les hommes apprécient en moi pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent au figuier, « Viens donc, toi, régner sur nous. » Le figuier leur dit, « Vais-je renoncer à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens donc, toi, régner sur nous. » La vigne leur dit, « Vais-je renoncer à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens donc, toi, régner sur nous. » Mais le buisson d'épines dit aux arbres, « Si c'est loyalement que vous me donnez l'onction pour que je sois votre roi, alors venez vous abriter sous mon ombre. Mais s'il n'en est pas ainsi, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. » Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, c'est au chapitre 13, les versets 1 et suivants. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu recevras ses éloges, car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors crains. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte le glaive, en punissant, elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. Et dans ce texte, je retiens juste la dernière phrase. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. Alors je crois que j'ai fait tout à l'envers, il doit y avoir un jeu d'orgue quelque part, mais j'ai inversé, voilà, c'est le cantique.
Donc vous pouvez chanter le cantique 399,
399.
Dans le petit recueil, louange et prière.
Voilà, je vous invite à vous lever, 399.
De ta présence, vive chef de la foi, aveugle et immense, il dirige sans toi, chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin. Les jours d'orage.
Frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et en particulier après cette confession de foi que nous venons d'entendre, après l'accueil par vous-même de Geoffrey parmi vous. Je voulais vous saluer toutes et tous et vous dire aussi qu'à l'occasion de cette année commémorative des 500 ans de la Réformation, je vous invite avec ces deux textes à méditer sur les relations entre la religion et la politique, entre ce que l'on appelle le domaine religieux et le domaine politique, sur la distance nécessaire qui en définissent leur champ, distance qui leur permet de ne pas se perdre dans le désir d'absoluité, de toute puissance l'un et l'autre. C'est aussi parce que la Réforme a effectivement pensé ce rapport que je voulais reprendre ce texte de l'épître de Paul aux Romains sur la soumission aux autorités, avec en avant-propos la fable de Jotham, qui est une critique acerbe de tout pouvoir, puisque les arbres, très démocratiquement, vont finir par élire le pire d'entre eux, le buisson d'épines. Le regard protestant sur ce sujet a toujours été éclairé, d'une façon ou d'une autre, par la lecture de la Bible. Selon ce qu'a écrit par exemple Martin Luther, il n'y a jamais eu de saint qui ne se soit préoccupé de questions sociales ou politiques. Il écrit cela en 1533 dans un commentaire du psaume 127. Et aussi bien, cette phrase autorise à relire et comprendre l'histoire de l'Église, notre histoire au fond, avec un esprit lucide, grâce au détour de la Bible, concernant ce rapport du religieux et du politique. Calvin, pour sa part, écrit dans le même sens. Et il dit, au fond, dans son livre de l'institution de la religion chrétienne, au premier livre, il dit que la Bible est comparable à des lunettes pour lire le monde. En faisant donc de la Bible non pas un livre de recettes, mais bien un outil d'interprétation. Ce 16e siècle de feu et de lumière aura donc illustré de la plus belle façon, et parfois dans le sang, combien la conviction religieuse, d'une part, la religion, et l'autorité du prince, d'autre part, la politique, auront dû apprendre à vivre ensemble, telles des sœurs jumelles qui se jalousent, qui se surveillent, sans n'être que des rivales. Mais il se trouvera aussi que la Réforme sera ce moment où le rapport entre ces deux forces, le religieux et le politique, sera repensé, sera reformulé, sera visité. Et les tentatives pour libérer l'Église de la puissance publique aboutiront peu ou prou dans la tradition réformée à de nouveaux équilibres confessionnels et territoriaux. Ces équilibres seront difficiles à tenir. Vous connaissez l'histoire de l'Europe et vous connaissez aussi l'histoire de la France. Mais ces équilibres deviendront nécessaires pour que l'Évangile puisse rester, malgré tout, une force de libération, un message d'espérance, pour que l'Église elle-même reste libre de ses choix, de même que le prince, lui aussi, reste libre de ses choix. Et donc la Réforme introduit, avec cette fameuse distance entre le religieux et le politique, une distance nouvellement comprise, un lent et complexe processus qui mènera peu à peu à la reconnaissance d'un espace public. Je parle de distance et j'ai toujours cette expression pour dire qu'il s'agit ici d'une distance de sécurité. Et là, tout le monde comprend ce dont il s'agit. Nous ne nous perdons pas de vue, il y a bien un écart, mais nous nous voyons l'un l'autre. Le religieux voit le politique à l'œuvre et le politique, sans reconnaître le religieux, le connaît malgré tout. Ce lent processus qui mène à la reconnaissance d'un espace public, dans les sociétés occidentales en tout cas, fera en sorte que cette société, justement, ne sera pas saturée par le religieux, saturée par le religieux d'une seule doctrine. Et il s'agira donc d'un espace où pourra s'exprimer la diversité des confessions et peu à peu la pluralité des convictions. Aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, une défense du politique, une apologie du politique est sans doute nécessaire. Oh, la religion aussi mérite qu'on la défende. Mais vous savez, la religion, c'est comme le sel dans le plat, il en faut un peu, mais pas trop. Aujourd'hui, il est nécessaire de défendre le politique, non seulement au regard du discrédit de son discours et de la difficulté avec laquelle ce qu'il apporte se comporte, mais parce qu'il est une conviction dans la tradition chrétienne enracinée dans la pensée du Nouveau Testament qu'il n'y a pas d'humanité véritable sans un ordre politique. Et c'est exactement l'esprit dans lequel se situe l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à ses paroissiens de Rome. La vocation humaine, rappellera Calvin, n'est pas de vivre pêle-mêle comme des rats sur la paille, ni comme en un régime de barbarie, mais selon un ordre où il y ait, et je le cite encore, « entre les hommes, honnêteté et modestie, en somme qu'il apparaisse forme publique de religion parmi les chrétiens et que l'humanité subsiste entre les humains. » Et je termine avec ces derniers mots pour les souligner. « Et que l'humanité subsiste entre les humains. » Oui, je crois que le politique mérite d'être défendu car il court le risque de se perdre dans la théâtralité d'une parole qui se vide de sens et une théâtralité redoublée par la puissance médiatique. Et à cette théâtralité d'une parole qui se vide de sens doit s'opposer sans cesse la crédibilité de la promesse républicaine. C'est cela que je voulais rappeler aujourd'hui. Et je reprends aussi une citation que j'ai donnée lors de ce fameux colloque auquel Marc a eu la gentillesse de faire référence tout à l'heure. C'est une citation d'un pasteur suisse qui, en 1940, exerce à Lyon et qui se trouve en chaire, qui s'apprête à aller en chaire lorsque la Gestapo va l'arrêter. Heureusement, sa nationalité suisse le préserve de la torture et de la déportation. Mais dans sa prédication en 1944, il écrivait ceci : « L'Église est le maquis du monde. Il ne s'agit donc pas de prendre le pouvoir, mais d'organiser la résistance en attendant le grand débarquement du royaume. » Cette citation, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle a été relevée récemment, cette citation replace vraiment le christianisme ici dans sa dimension protestante devant une exigence. Et c'est l'exigence d'une réflexion sur son rapport au politique. Elle oblige à relire précisément ces premiers versets de Romains 13 que vous avez entendus tout à l'heure, ce fameux chapitre de l'épître de Paul qu'a interprété Karl Barth à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il s'insurgeait contre l'instrumentalisation de l'Église par le pouvoir politique. Il oblige à relire donc Romains 13, non comme une injonction bête et méchante à la soumission au pouvoir, mais à la recherche incessante d'une relation juste et libre à son endroit. Et comme dit l'apôtre Paul, il s'agit de se soumettre en conscience. Et vous savez qu'une soumission en conscience, c'est une soumission libre et lucide. Libre, non pas obligée, et lucide, non pas naïve. Cette citation ne désigne pas l'Église ici comme institution, mais elle parle des chrétiens, elle parle de chacune et de chacun de nous, comme acteur de transmission d'un message d'espérance, de résistance, comme sentinelle des temps qui viennent, des temps qu'il faut discerner, et dont il s'agit d'annoncer non seulement les promesses, mais aussi les périls. Il s'agit donc de se faire connaître, il s'agit de faire connaître ce message, Il s'agit de transmettre une information, comme nous l'avons fait tout à l'heure, une bonne information, une belle information, un évangile. Dieu aime chacun de nous. Et il s'agit d'oser passer inlassablement et autant qu'il faut, parfois à contre-temps, de la clandestinité au grand jour. De la discrétion, typiquement protestante, paraît-il, enfin c'est ce qu'on lit dans la presse, à la place publique. L'existence et la vitalité même de ce que l'on nomme aujourd'hui précisément l'espace public sont les signes distinctifs des régimes démocratiques. Et il faut donc à la fois se réjouir de cette réalité, il faut en prendre conscience, mais il faut aussi savoir que cette réalité peut se révéler fragile, peut se trouver menacée, très vite aussi, par des événements et des logiques de violence qui s'enchaînent, par le fait d'acteurs peu soucieux du vivre ensemble. L'espace public, qui existait plus ou moins dans la Rome de l'apôtre Paul, l'espace public, aujourd'hui, c'est ce lieu qui est au service de la délibération démocratique et qui prépare l'opinion, qui engage une société vers une décision commune. Une société donc, comme je l'ai dit, qui ne soit pas saturée par le religieux, mais qui ne soit pas non plus saturée par le tout politique, par le pouvoir, qu'il soit dogmatique, policier, militaire, mais qui peut ouvrir et cultiver un tel espace de liberté, une sorte d'interface entre les citoyens et les pouvoirs, et qui se présente comme un lieu d'échange symbolique, un lieu d'échange de sens, pour vivre le consensus, le débat, la discussion, et envisager l'avenir autrement que par le rapport de force et la violence. Vous le savez, depuis 1905, nous sommes passés ainsi d'un régime qui n'avait pas vraiment cette possibilité-là, un régime, comme disent les sociologues, de catholicité, à un régime de laïcité, de sorte que chaque confession s'est trouvée, y compris la nôtre, dans cet espace public, à équidistance des autres et des autres acteurs, de même qu'à équidistance des autorités et des pouvoirs. Chaque confession s'est trouvée dans un rôle qu'elle a dû apprendre et assumer publiquement de plus en plus, ensemble. Et c'est le début du dialogue écuménique, et c'est le début des dialogues interreligieux. C'est le début de cette grande conversation religieuse dans une société qui n'est plus cadenassée par le pouvoir politique. Le protestantisme, pour sa part, et chacun de vous, se tiennent engagés dans cette performance que je qualifierais de citoyenne, mais avec la double citoyenneté française et du royaume, française et chrétienne, d'ici-bas et de l'au-delà. Une performance à vivre non pas seulement par intérêt, puisque nous avons intérêt à participer au débat dans la société, mais par conviction, parce que nous sommes appelés à transmettre ce que nous avons reçu, parce que nous sommes fondés sur l'affirmation constante de ce fameux principe de la liberté de conscience qui nous oblige, en quelque sorte, à transmettre ce que nous croyons. Alors, voici ce que je pourrais dire comme premier point dans cette méditation sur le rapport du pouvoir et de la religion. Nous ne nous tenons pas en surplomb, nous ne portons pas un regard en surplomb de la société, ni nous nous tenons accoudés au balcon, au-dessus de la place, nous considérant comme préservés du tumulte, de l'espace public et du débat politique, en attendant notre heure pour avoir le dernier mot. Au contraire, nous nous percevons les uns et les autres, du moins c'est comme cela que j'entends le témoignage chrétien, comme des coproducteurs de cette société, comme des compagnons de route d'une république et de son histoire, y compris dans ces derniers combats qu'elle a du mal à remporter elle-même après les avoir énoncés, et je les cite pour qu'on les ait bien en tête, puisque la réforme elle-même y était déjà engagée, bien avant la République, alors même que ces combats étaient peut-être confus dans son esprit, l'égalité de l'homme et de la femme, l'égalité entre les hommes, puisqu'au nom de la grâce de Dieu, nous sommes tous à équidistance du salut, il n'y a donc plus de classe différente entre les uns et les autres. Égalité de l'homme et de la femme, mais aussi, puisque le Christ s'approche du plus petit, lutte contre l'exclusion et refus de la grande pauvreté. Et puis, comme le Christ est non seulement rabbin et prophète, mais aussi enseignant, éducation, éducation pour tous. Et puisque lui-même a vécu l'exil, droit d'asile et accueil des réfugiés. Et puisque lui-même, on n'a jamais su exactement sa vie personnelle et intime, respect et bienveillance pour les sexualités. Et puis, puisque les choses se compliquent avec la technique, les questions liées aux gestions des extrémités de la vie, avant la naissance et au moment de la naissance, ou juste avant la mort, la procréation médicalement assistée, la gestion pour autrui, l'assistance médicalisée au suicide, toutes ces questions qui sont devant nous et auxquelles il nous faudra, d'une façon ou d'une autre, répondre. Sans parler de celles qui sont très complexes, mais qui nous intéressent et de façon vitale, la question de la dissuasion nucléaire, la question de la transition écologique, et puis un sujet sur lequel je pense qu'il y a ici quelques spécialistes, du moins je l'espère, parce que demain la question se pose, le transhumanisme. Les choses bougent donc, les choses bougent, et ce processus de participation active au débat se poursuit. Et désormais, la nécessité se fait ressentir, pour nous, de la prise en compte de cette profonde mutation, non pas seulement de la société dans sa projection vers l'avenir, mais aussi dans son paysage religieux, où chaque confession et chacun de nous, y compris les autorités et les pouvoirs publics, sont amenés à se positionner. Les églises chrétiennes, mais aussi les autres religions, doivent aborder ces sujets et les traverser. La conversation démocratique s'enrichit alors peu à peu, et c'est difficile, c'est difficile. Elle s'élargit à des partenaires jusque-là ignorés et même parfois méprisés. Le temps est même celui des questionnements sur la pertinence de la foi chrétienne, puisque, vous le savez, le christianisme est religion presque minoritaire dans ce pays, mais dans cette religion minoritaire, le protestantisme lui-même est ultra-minoritaire. Et le protestantisme luthéro-réformé, ultra-ultra-minoritaire. J'ai hésité à vous la raconter, celle-là, mais je le fais. Nous sommes au ministère des Affaires étrangères, il y a quelques mois. L'un des conseillers aux affaires cultuelles nous dit « Qui va gagner la finale ?» Alors, je regarde mon calepin, l'OM n'avait pas encore joué, donc ce n'était pas de foot qu'il parlait. La demi-finale aujourd'hui, c'est le christianisme, catholique et protestant, un peu orthodoxe, contre les pentecôtistes et les fous de Dieu. Première demi-finale. Deuxième demi-finale, c'est l'islam, sunnite, chiite, soufi, contre Boko Haram et Daesh. Qui allons-nous trouver en finale ? Si vous voulez, lorsqu'on parle de mutation, de transformation, de recomposition des paysages religieux dans le monde et en Europe, c'est à cela que pense les hommes politiques, parce qu'ils ont comme souci l'ordre, la paix et la sécurité. Après ces interrogations fortes sur la pertinence du religieux dans son rapport aux politiques, au cœur de ces interpellations où nous trouvons un monde complexifié, pluralisé, presque atomisé, où le christianisme lui-même est contesté, où il est même perçu par certains comme déjà obsolète au fond, déjà du passé, facultatif, périphérique, mis à l'écart pour toutes les décisions. Dans ce contexte où l'on parle d'exculturation du christianisme, vous savez que ce mot d'exculturation veut dire en français courant l'excommunication, eh bien, il nous faut avancer tant bien que mal. Il nous faut aller vers ce deuxième point que je voulais évoquer avec vous, et c'est cette rupture plus ou moins assumée entre christianisme et culture. Cette recomposition d'une culture sans religion chrétienne, cette construction d'une culture sans culte, du moins sans culte qui serait le nôtre. Cette construction d'une religion sans culture, hors sol, en quelque sorte, sans réel enracinement. Et je pense ici précisément à certaines communautés pentecôtistes d'Afrique subsaharienne ou d'Asie ou d'Amérique latine, ou à certains islams qui n'ont plus rien à voir avec leurs origines, chrétiennes d'une part ou musulmanes d'autre part, et plus aucun enracinement. Dans ce contexte-là, la voix luthéro-réformée, ultra-ultra-minoritaire, exprimera-t-elle une peur obsidionale, un repli sur soi, un repli convictionnel et identitaire pour dire que seulement dans cette tradition luthéro-réformée se trouve la vérité? Ou bien osera-t-elle affronter les défis et sortir de ses murs, donc aller sur la place publique, aller dans l'espace public? Devant cette situation nouvelle, la réactivation des discours identitaires et conservateurs fait peur. Les réaffirmations convictionnelles de la doctrine contribuent à faire comprendre que le christianisme peut être de mauvaise humeur vis-à-vis des évolutions de la société, qu'il n'est pas un contributeur éclairé, mais qu'il s'enferme tout seul dans un corner sociétal, pour ne pas dire éthique, puisqu'il dit non à chaque fois, et puis qu'il dit oui après coup, comme à regret. Le sursaut qui permet de tromper cette vision peu optimiste consiste bien à être présent dans ce que j'appelle, avec beaucoup d'autres avant moi, l'espace public. Non pas la scène publique, entendons-nous. Je ne parle pas de la scène médiatique, mais je parle bien de l'espace public, c'est-à-dire des lieux citoyens où se font le vivre ensemble, où se fabrique le lien, où se crée l'opinion de demain. Et c'est ici qu'il nous faut nous méfier effectivement de cet investissement de la scène publique comme s'il s'agissait de se justifier par je ne sais quelle œuvre d'un communiqué de presse ou d'un bel article dans un journal qui ferait parler en bien des protestants. Je parle de l'espace public où il s'agit du dialogue citoyen, et ici nos églises et chacun de nous se trouve interrogé. Notre paroisse, alors je dis notre, cette paroisse, est-elle en prise avec cet espace public? Oh, je sais bien que oui, par tous ces débats et par toutes ces conférences, et donc ce n'est pas ici que je commencerai l'interpellation, mais l'interpellation vaut aussi pour la paroisse de l'Oratoire. Avec qui dialoguons-nous? Avec le même ou avec l'autre différent? Avec qui dialoguons-nous et qui invitons-nous? Ceux qui sont plutôt avec nous? Ou bien osons-nous le dissensus qui agace et qui ne fait pas aboutir forcément à un point d'accord? Troisième point d'étape et dernier, il ne s'agit donc pas de se tromper de cible. Il ne s'agit donc pas de s'effrayer, de baisser les bras, de se réfugier au désert ou je ne sais quoi encore. Il ne s'agit pas de prendre acte de la sortie de l'histoire du christianisme. Il s'agit de s'interroger sur la pertinence de ce message que la réforme a révélé, a remis au goût du jour, comme une rivière souterraine qui réapparaît en plein XVIe siècle et qui irrigue maintenant l'Europe et le monde depuis 5 siècles. Il faut rappeler avec quelque autorité, non pas politique pour le coup, mais spirituelle, et cela vous revient, il faut rappeler avec quelque autorité spirituelle à la République qu'elle ne peut pas tout, qu'elle ne pourra pas tenir ses promesses toute seule, sans les ressources de la foi chrétienne, sans ses énergies qui œuvrent au service de la justice. Oui, il faudra faire valoir cette parole pertinente et impertinente d'une éthique, par exemple, qui ne se veut pas normative, mais toujours en recherche, qui se tient aux aguets des souffrances et des attentes des hommes. Il faudra faire valoir l'exigence de responsabilité partout où le citoyen est dépossédé de sa dignité. Il faudra dire que l'homme est capable, en bien des lieux où l'asservissement semble l'emporter, de lutter. Il faudra faire valoir que l'État doit se préoccuper du plus vulnérable au lieu même de sa propre reproduction, au risque de créer une société barbare et d'en être comptable un jour, à force de refuser l'accueil de l'exilé, du sans-asile, du handicapé et de l'enfant orphelin. Cette force d'interpellation sur la responsabilité, la capacité, la vulnérabilité, nous pouvons nous en faire l'écho dans nos engagements, dans nos œuvres, dans nos associations, dans nos débats et surtout là où nous sommes présents dans l'espace public. Ici, et je terminerai sur cette interpellation, le protestantisme est en défaut. Il manque d'élus. Il manque de responsables associatifs. Il manque de hauts fonctionnaires. Il manque de relais dans la société. Son ultra-minorité n'est pas un atout. Dans ce rapport du politique au christianisme, il nous faut inventer un nouvel humanisme qui se fonde sur l'Évangile, dans le maquis du monde et devant les dangers qui menacent. Tel est le défi, non pas le nôtre seulement, mais celui à vivre avec les frères et sœurs chrétiens des autres églises et en lien avec les responsables de toutes les religions. Ce questionnement est le questionnement de tous les citoyens de ce pays. Amen.
Nous allons maintenant chanter le cantique 175, les strophes 1 et 2. Le cantique 175, je vous invite à vous lever. Tout d'abord, merci à toi, François, pour cette prédication nourrissante sur ce sujet ô combien brûlant des rapports entre la politique et la religion, résistance et soumission, ces concepts redeviennent d'actualité. Nous entendons aussi l'exhortation qui nous est lancée à ce que notre paroisse, notre communauté soit présente sur ce terrain du dialogue avec l'autre, l'autre différent, et pas seulement le même. Un grand merci à toi, donc. Merci également à nos amis musiciens, à David Cassan, à Fabien Aubé, à tous les choristes. Venez chanter, c'est le mot d'ordre, une fois par mois, le dimanche matin, à 9h30, venez chanter avec le chœur pour apprendre les psaumes et les cantiques du jour. Voilà, vous trouverez le planning des dimanches où vous êtes invités à venir chanter sur le site internet de la paroisse et dans la feuille rose. Les chanteurs expérimentés sont invités à prendre contact avec le chef de chœur. Quelques informations sur la vie de la paroisse dans les jours à venir. Quelques minutes après le culte, aujourd'hui, à midi, aura lieu le repas paroissial. Il est bien sûr préférable de s'être inscrit au préalable, mais enfin la table est ouverte. Et si vous ne vous êtes pas inscrit, vous pouvez quand même venir, tout est prêt. Cette semaine vont reprendre également les activités concernant les langues bibliques. La rentrée du grec biblique pour les progressants est annulée. Elle reprendra le lundi 9 de 19h30 à 21h. Mercredi 4, le grec biblique pour ceux qui sont avancés reprend de 15h30 à 17h. En ce qui concerne l'hébreu biblique pour débutants aura lieu le jeudi 5 octobre de 19h30 à 21h. Je signale que dimanche prochain, dimanche 8 octobre, pendant le culte, nous aurons la joie d'accueillir pour la prédication Marion Müller-Collard, théologienne, auteur bien connu. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher du comptoir de librairie à l'issue de ce culte pour découvrir ses ouvrages, L'autre Dieu, L'intranquillité, les acheter bien sûr et pas simplement les feuilleter pour vous préparer à la prédication de dimanche prochain. Je signale dès à présent que le lundi 9 octobre de 20h à 21h30 dans le cadre du cycle Philosophie et Théologie, nous accueillerons Olivier Abel qui viendra parler de Pierre Bayle, là aussi un penseur des rapports entre la religion et la politique, et que le mardi 10 octobre à 20h aura lieu une soirée, conférence-concert, sur la réforme à Paris 1520-1560 avec Philippe Bronstein, Aurélien Péter, Fabien Aubé et Stanislas Siviorek. Une dernière annonce. Certains d'entre vous, je pense, connaissent Georges Cablon. Vous pouviez le croiser ici même dans le temple ou dans la maison presbytérale depuis l'été. Le temps pendant lequel il avait été prévu de l'accueillir, s'est donc achevé hier, le 30 septembre. Si vous désirez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à vous rapprocher de l'Entraide qui a soutenu et accompagné Georges Cablon durant son séjour parmi nous. Voilà, j'en ai fini avec les annonces. C'est maintenant le temps de l'offrande. Dieu aime ceux qui donnent avec joie.
je vous invite à la prière d'intercession. Le Seigneur Jésus dit : demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Le Père Céleste donnera le souffle à ceux qui le lui demandent. Oui, c'est avec confiance que nous nous tournons maintenant vers notre Dieu. Seigneur, en ce jour, nous te remettons tous ceux qui sont chers à notre cœur. Nous te remettons celles et ceux que nous rencontrerons et côtoierons durant la semaine qui s'ouvre. Nous te présentons notre monde, ceux qui y occupent des positions de pouvoir et d'autorité, ceux qui y mènent un combat de justice et de paix, ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir. Nous déposons devant toi nos soucis, nos inquiétudes, nos angoisses. Par ton esprit, donne-nous d'aimer ce que tu aimes et désirer ce que tu désires. Donne-nous de vivre en communion avec ton Fils Jésus et avec celles et ceux que tu nous donnes pour frères et sœurs. Alors c'est pourquoi nous avons l'audace de t'appeler et de dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Que le Créateur nous renouvelle jour après jour. Que le Christ nous accompagne sur nos routes humaines. Que l'Esprit souffle sur nous avec grâce. Que Dieu, notre Père, nous bénisse et nous garde. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Amen.